Seine Haare waren rot, oder vielleicht waren sie schwarz.
Soudain, Romy Schneider.
Seine Augen waren blau.
De Guillaume Poix.
Oder vielleicht waren sie schwarz.
Réalisation, Cédric Ossir.
Ich weiß nicht mehr, er ist so weit. Er ist so weit.
Maintenant, cette histoire prend un sens. Vous allez voir comme je sais jouer la comédie quand je veux, pour attirer votre attention. On me veut belle pour séduire, j'ai la tête que j'ai. Je suis toujours celle d'avant. Une femme jeune, libre. C'est excitant. Je ne veux rien vous cacher. Vous devez penser que j'ai l'habitude de ce genre d'entrer en matière. La chose pour laquelle je suis née, c'est aimer un homme, au point de consacrer ma vie à le rendre heureux. Quel est le mot en français pour mentir? Enfin, pas mentir, raconter des histoires. Je veux être une reine à la hauteur de sa tâche. Et aucun souci, aucun travail, aucune peine, aucun effort, si grand soit-il, ne pourront me paraître lourds s'il s'agit de rendre mon peuple heureux. Je suis heureuse. Heureuse, heureuse, comme des épaves. Je n'ai aucune envie d'être heureuse. Toutes les femmes heureuses se ressemblent. Je n'ai jamais été heureuse. Pour les robes, ce n'est pas vrai, je n'ai rien acheté. Mais je dirais n'importe quoi pour parler de moi. Ce que vous pouvez penser de moi ne m'intéresse pas. Je ne suis pas si populaire. J'ai reçu une bonne éducation, des principes. Bye, darling. Good night, papa. Yo, Carl Ludwig. Il devrait exister un manuel à l'usage des reines. Il me le faut. J'avance dans l'obscurité, comme un bateau sans gouvernail. Ils vont nous mettre dans un camp. Aidez-moi. Je ne sais pas à qui je le dis, mais je le dis. Un peu partout. Il faut que tu apprennes le silence. Je te regarde. Et j'ai envie de pleurer. Parce que je suis fatiguée. Fatiguée de t'aimer. Pose ce couteau, César. Très chic. Refais ce geste. Il m'a flanqué une fessée, un vrai mâle blanc. Je l'ai tué, espèce d'hyperthyroïdien. Il y a, entre nous, impossibilité. Pourquoi me priver de le voir? César sera toujours César. Et toi, tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, qui m'aime sans me vouloir. Je devrais être ton impossible amour. Ich dich lieb. Pourquoi tu m'aimes? Pourquoi tu m'aimes? Tu ne m'aimes plus. Je t'aime. J'ai peur que tu ne m'aimes plus. Je ne t'aime pas. Tu es un monstre. Tu m'aimes parce que je suis là. Mais s'il faut traverser la rue pour me rejoindre, tu es perdu. Comment mettre l'amour dans toutes les heures de chaque jour? Je n'ai pas trouvé, c'est justement quand nous sommes ensemble que tu me manques le plus. Pourquoi tout le monde a des problèmes avec l'amour? N'allumez pas les lumières. Passer 30 ans, on ne fait bien l'amour que dans la soie. Je vais vous faire l'amour et après vous ne pourrez plus me quitter. Je croyais que l'amour, c'était faire l'amour. Ne faites pas de photos, s'il vous plaît. Non. Je suis une comédienne, vous savez. Je sais faire des trucs bien. Ça ici, je le fais pour bouffer. C'est tout, alors ne faites pas de photos. S'il vous plaît.
Ne faites pas de photos.
Nous sommes en train de tomber dans le pathétique. Je vous raconte ma vie. La mienne était si douce. Pas seulement ma mère. Pourquoi ce supplice? On tape sur les hommes jour et nuit. Heil Hitler. Je suis désolée d'avoir manqué ton couronnement. Et encore plus loin, il y a Vienne. C'est du toc à Vienne. Pourquoi me haïssez-vous? Je n'aime pas les histoires qui finissent mal. Je suis paumée. Je me sens vieille. Je suis fatiguée. J'ai un fils de 16 ans. J'ai cru qu'il allait mourir dans mes bras. Je suis malade. Ma vie est ce qu'elle est, même si elle ne vous semble pas très brillante. Mais je peux pas. Je peux pas, je peux pas. J'arrive pas à avoir un homme et un enfant en même temps. Et plus ça va, plus je me dis que c'est pas grave. Plus de souvenirs, rien que des projets. On vous paye pour mourir en public. Je ne me suis pas assez préservée. Comme si j'avais trop vécu. Déjà. Je n'ai qu'une mort à vendre. Nous sommes ici-bas pour souffrir. Je n'ai pas envie de changer, ni d'être impératrice. Je n'ai pas le droit de décider. Je suis comme toutes les autres, pire peut-être. C'est un beau métier. Vous ne me ferez pas taire. Cette histoire est passionnante, c'est joli, c'est comme une musique. Mais je suis obligée de vous quitter. J'ai assez chialé. S'il y a bien une chose que je sais, c'est faire la différence entre du faux et du vrai. Peut-être je n'étais pas une assez bonne comédienne. Trop tôt, trop jeune. Je savais que je ne jouais pas très bien, mais j'aimais cela. Ce que je veux, c'est être libre et vivre sans contrainte le plus possible. J'ai trop parlé maintenant. Je ne parle que de moi. Vous croyez que je vais laisser les caméras entrer dans ma vie? Vous sautez sur le premier malheur venu. Je suis fragile. Je suis payée pour ça. Je ne suis pas en très bon état. Je n'ai plus aucune envie de vivre. C'était une comédie. Et rien de plus. Vous savez, c'est moi qui ai éteint les lumières. Demain, je serai partie. Je ne sais pas ce que je fais avec ma vie. Je me cogne, je suis maladroite. Je ne tiens pas le coup. Je voulais vivre. Et toi, tu me fais mourir. Tu me détruis. Je peux te donner beaucoup encore. Beaucoup, beaucoup. On peut échapper à l'hiver. Il ne faut pas penser à l'impossible. Les triomphes s'oublient vite. Moi, je ne suis rien. Il faut que j'arrête. La vie est dure. J'y arriverai jamais. C'est juste un peu de fatigue. Il faut absolument que j'arrête. Ça fait un bout de temps qu'on ne fait plus de couverture de moi. J'ai l'impression que vous me détestez. Je veux partir. On a assez perdu de temps, on a tourné toute la nuit. On se quitte pour toujours. Il faut qu'on tue le temps. Je suis peu de chose. Ma vie, ce serait comme un film. Qui je suis, mon Dieu? Qu'est-ce que vous croyez que je suis? Il ne faut pas me laisser seule. Je ne suis pas une actrice. Je ne veux pas sentir que la vie, c'est ailleurs.
1953. Extérieur jour.
Eva Forster.
Trois bicyclettes traversent le champ.
Elles viennent du fond d'un chemin bordé de fleurs blanches, d'un sapin, de diverses essences de bruyère, de quelques rochers. Et dans le plein soleil, sur l'une des bicyclettes, celle du milieu, elle est rouge, il y a une jeune fille de 14 ans. Elle porte un pull et une veste bleu ciel, une jupe grise, des sockets et des souliers vernis. Elle pédale, la caméra la suit fidèlement. La jeune fille regarde droit devant elle et sourit. Ainsi très précisément, entre les minutes 33:06 et 33:11, dans ces 5 secondes, quelque chose apparaît, se déchire, s'invente, change, s'envole, irradie. Et maintenant, soudain, Romy Schneider.
Être ce qu'on devient. Finir par regarder la forme de son corps après les années.
Alain Delon.
Assister au spectacle d'un morceau de glace qui tombe lentement dans l'eau salée, sans parvenir à rester à la surface. Coule à pic. Disparaît. Change d'état. Se dire ça, qu'on change d'état, qu'on restera quelque part, latent, ayant laissé traces un peu partout, sans qu'on parvienne encore à les voir, les déceler, quand il fait nuit. Même si la nuit, ce sera tout le temps maintenant. Nuit sur les ports et les plages et les pontons, les débarcadères. Nuit sur les marches des palais, les discothèques. Nuit sur les salles déjà noires parce que tout le temps noires. Nuit sur les palaces, les hôtels et les portes-tambours. Nuit sur des terrasses et des balcons. Nuit sur Saint-Tropez, Ramatuelle et Gassin. Nuit sur Cannes, Bandol, Carquéran et Antibes. Nuit sur Saint-Égulfe. Sur Saint-Égulfe. Nuit sur Grimaud, Cogolin, Saint-Raphaël et Sainte-Maxime. Nuit sur les Issambres. Et nuit sur la Gaillarde. Comme si la nuit qui prend un corps, la nuit qui tombe et lâche, oui, comme si ces nuits qui prennent des corps, et surtout les éteignent, faisaient qu'il n'y a plus de bleu, plus d'azur et d'outre-mer, plus de vert d'eau, de turquoise, de cobalt, et plus d'indigo, plus de bleu. Et s'il n'y a plus d'azur, parce que plus de Saint-Tropez, alors on ne verra plus l'arcature de ses sourcils. Et s'il n'y a plus d'outre-mer, parce que plus de Ramatuelle, alors, on ne verra plus ses lèvres comme cueillies par ses pommettes et toujours peintes d'un peu d'oranger. Et s'il n'y a plus de verre d'eau parce que plus de Gassin, plus de Cannes, alors on ne verra plus ses yeux insensés, vagues et qui s'émiettent comme si le monde les avait croqués. Moi, j'ai croqué, goûté, ses yeux, son regard. Et s'il n'y a plus de turquoise parce que plus de Saint-Égulfe, alors il n'y aura plus le sourire creusé dans son visage. Il n'y aura plus son nez d'enfant et ses fossettes qui envahissent les paupières tandis qu'elle sourit. Il n'y aura plus l'anse du menton, les dents, et puis, après tout, l'infini. Les deux grains de beauté sur son omoplate, à gauche, qui ressemble à la disposition des îles de Porquerolles et de Porquerolles sur la Méditerranée. Et s'il n'y a plus de cobalt, parce que plus de Grimaud ni de Cogolin, tout ça à cause de la nuit, il n'y aura plus sa démarche de nageuse de l'Allemagne de l'Est, je caricature, et ses mèches blondes qui accompagnent la calligraphie du bassin. Et s'il n'y a plus d'indigo, parce que plus ni Saint-Raphaël, ni Sainte-Maxime. Alors il n'y aura plus sa voix. Pas trouvé d'adjectif pour qualifier sa voix. Et s'il n'y a plus de bleu, parce que la nuit a tout mangé sur la côte d'Azur, alors il n'y aura plus Romy Schneider.
Moi, je peux le dire très simplement ce que c'est, Romy Schneider. La Providence. Elle me sauve. Elle me sauve.
Si, si.
Il n'est pas du tout prévu que je sois un grand rôle. Je veux dire, ce qui est écrit de moi, ce n'est pas... Bon, c'est naïf. Trop. C'est un peu à côté, d'accord. C'est l'Autriche. On en a besoin de m'écrire sur ce ton. Parce que les circonstances n'honorent pas les gens de l'Autriche. Je ne nie rien. En Europe, je veux dire, ce que nous faisons, je veux dire, ce qu'ils font les Allemands, avec le soutien massif, quand même, des Autrichiens, nous, suscite un peu de, disons, perplexité. Et je sais combien c'est douloureux pour Romy Schneider, cette histoire de Berchtesgaden, avec sa mère, qui vit à quelques kilomètres du perchoir de l'aigle, qui rencontre le Führer, puisqu'il faut dire le mot, qui se lie avec Eva Braun, et qui reste, travaille, tout le temps que dure ce temps de prédation. Elle pense quand même, elle me le dit un jour, elle pense que sa mère vit une aventure, amoureuse avec Hitler. Il faut se rendre compte à sa place, ce que c'est. Moi, j'aurais tout envoyé valser. J'aurais congédié la mère coupable. Moi, je dis ça. Si elle le fait, on ne se rencontre pas. Parce que qui nous présente, c'est sa mère. Pas directement, bien sûr, mais je lui dois cette rencontre à Magda Schneider. Je la lui dois. Et je veux ici dire quelque chose sur Magda. Magda possède le visage le plus étrange qui soit. Vous la regardez avec un œil d'enfant et vous vous prenez à rêver qu'elle soit votre mère. La douceur de son regard, poignets potelés, cheveux crantés. Et puis le temps passe et vous grandissez. Vous retombez sur moi, si, si, par hasard, un soir de Noël. Alors vous me regardez parce que tout de même j'ai marqué quelque chose en vous, osez le dire, au même titre que Walt Disney. Et il se trouve que vous connaissez maintenant, en ce soir de Noël, plus de choses de la vie de l'actrice, celle qui me joue. Vous connaissez plus de choses de la petite fiancée des Autrichiens qui conquiert l'Europe à coups de canne à pêche. Et vous savez notamment quelques petites choses sur sa mère, sur Magda Schneider, qui joue ma mère. Vous savez notamment qu'elle revient en grâce après le temps des aigles bavarois parce que sa fille est un miracle. Elle y est bien pour quelque chose, cette mère bicéphale. Et vous apprenez qu'elle décide pour sa fille les films qu'elle devra faire, s'assurant de figurer en lettres gothiques sur les contrats signés par sa progéniture, parce qu'il n'est pas question que sa fille crève l'écran sans elle. Il n'est pas question que sa fille joue sans elle. Il n'est pas question que le monde ne la veuille pas, elle, Magda, pour mère courage et nourricière. Et ces petites choses que vous savez désormais sur elle, petites choses résumables comme suit, ogresse, sympathisante nazie, opportuniste, mais vous sentez bien que chacun des mots lâchés ici est d'une haute violence, confine à l'insulte, quand tout est bien plus compliqué que tout cela. Vous le savez admirablement parce que combien de fois dans votre vie vous a-t-on croqué d'un mot qui disait tout sans rien dire. Ces petites choses, si imparfaites et brutales soient-elles, vous font regarder Magda Schneider d'un tout autre œil. Et vous qui pensiez que si, si, c'était bien gentil, vous découvrez que pas du tout. Vous découvrez que Magda Schneider, son sourire enjôleur, quel mot daté et comme il convient, laisse voir quelques dents bien acérées, pointues, des lames. Et vous vous prenez à ne plus regarder que ça en me retrouvant en ce soir de Noël. Et alors, votre réaction éclate, tandis qu'il neige, peut-être dehors. Vous êtes soudain terrifié par Magda Schneider et vous vous dites qu'elle pourrait bien vous mordre à la carotide et vendre votre sang, c'est une image, et vous vous dites que les monstres n'ont jamais l'apparence des monstres. Vous vous dites que Sissi est une histoire atroce et vous vous dites que Magda Schneider incarne l'Autriche. Cette contrée paradisiaque où la nature réalise ses meilleures performances mais qui dissimule dans les anfractuosités de ses roches enneigées un nombre suffisant de cadavres martyrisés pour repeupler la terre. Avec moi, vous découvrez la face cachée du monde, des civilisations, des territoires, et vous vous dites que pour cela, Sissi est un chef-d'œuvre mésestimé. Et vous vous prenez à m'aimer encore davantage puisque je parviens, dans le film, à me défaire de l'emprise canine d'une femme au-dessus de tout soupçon. Et même si vous savez que l'Autriche, je disais, a besoin d'avaler du sucre avec moi et de refaire vivre ou ressusciter la gloire impériale d'avant l'ère des rapaces, plus clairement l'ère des camps, des massacres, des crémations, même si vous savez que cette histoire parle donc avant tout aux Autrichiens, aux Hongrois, aux Allemands, aux coupables, même s'il ne semble que s'agir d'un seul peuple, vous trouvez que ce peuple pourrait bien être dans votre estomac, que ça pourrait être vous, frère humain, vous et rien que vous, bourreau.
Philippe Noiret.
Dire une belle chose de cette femme, cette actrice, et sans violon, qui soit rien que belle et pas complètement banale, idiote, prendre la parole, ce n'est pas mon métier. Il faut m'écrire quelque chose. Et puis ça ne regarde personne au fond de savoir que je la voulais. Que je l'ai voulu comme un caillou qui tombe dans l'eau, qu'il n'y ait pas de fond. Un bout de verre dépoli par l'eau salée. Le bout de verre veut cette eau éperdument pour qu'elle fasse de lui ce galet de couleurs. C'est vrai. Moi, j'ai voulu l'aimer comme on mord dans une pêche pleine de jus. C'est trivial, vous voyez. Et je n'y ai jamais eu droit, en vrai. En vrai, jamais. Jamais eu ce droit. Bon, je me rattrapais quand on disait moteur. Je me rattrapais quand on avait dit action. Là, c'était parti. C'était quelque chose. J'avais ma tactique, ralentir les prises, les rythmes des scènes. Je jouais très doucement pour étirer le temps qu'on me donnait contre elle, contre toi. Je te parle, tu vois. C'est aussi simple que ça. Je jouais toujours les moches, les hommes ingrats, les gros, les hommes pas gâtés par la nature, toujours bridés par mon corps. Et la nature paysanne, ils disent « la nature paysanne » de Philippe Noiret. La nature paysanne de mon gros corps lourd. Je pouvais la broyer. Je pouvais te broyer avec mes gros bras lourds. Tu trouvais ta place et tes seins reposaient sur mon ventre quand on se serrait. Et quand c'était coupé, qu'on disait coupé, je ne relâchais pas tout de suite l'étreinte. Mais tout le monde fait ça. Quand on joue avec quelqu'un, on est dans une scène, disons, érotique, ou du moins une scène qui implique l'intimité des corps, qui implique l'intimité de chacun. Une scène où si vous êtes pris en pleine érection, vous ne savez pas comment votre partenaire va le prendre. Là, vous devez contrefaire, mais jusqu'à un certain point. Mais elle, toi, avec toi on ne pouvait pas contrefaire. Je me surprenais à bander, oui, j'avais envie de plonger dans le sol pour disparaître de honte. Et tout le monde fait ça. Pas bander, mais les acteurs, je veux dire. On joue une scène d'amour avec sa partenaire, et on fait semblant comme pour de vrai, et parfois mieux qu'en vrai. On se surprend à être infiniment plus habile qu'en vrai, infiniment plus doué, délicat, virtuose quand on joue. On manie le corps de sa partenaire avec une aisance qu'on n'a en vérité pas. On se découvre un corps ignoré, il faut se représenter. Pendant que vous jouez la scène si bien, que vous la jouez si bien, si vraiment, si pleinement, pendant que vous jouez, vous y êtes littéralement. Seule fois de votre vie où vous coïncidez, on pourrait dire. Seule fois de votre vie où vous n'êtes pas dédoublé, vous ne vous regardez pas. Les acteurs ne se regardent pas, ils ont trop de choses à faire quand ils jouent. Je parle des bons acteurs, des actrices. Et pendant que vous y êtes, en vous, en votre partenaire, la scène avance et une voix dit « couper ». Et là, au lieu de vous défaire immédiatement du corps de votre partenaire, comme il est attendu que vous le fassiez quand on a dit « couper », parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile quand on joue. C'est le moment où on vous dit « arrête de jouer ». Mais c'est aussi bref qu'un choc. Le choc d'une brindille sur un dos nu. C'est aussi brutal et bref que ça. C'est comme mourir, je veux dire. Certains, enfin tout le monde, respire et puis ne respire plus. Et vous êtes mort, vous mourrez, je ne sais pas comment dire. Tu meurs, tu es mort, tu joues, tu jouais, tu ne joues plus donc. C'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce moment où tout s'arrête et que vous devriez instantanément vous séparer du corps de votre partenaire. Mais si vous le faites trop vite, votre partenaire va croire qu'elle vous dégoûte ou que vous préférez la réalité. Et si vous vous attardez, elle va croire que vous voulez la prendre là, en fin de journée, dans votre carloge, et que vous préférez la fiction. Alors, il faut trouver un tempo commun. Jouer ensemble, ce n'est pas jouer ensemble, c'est ne plus jouer ensemble. S'arrêter de jouer exactement ensemble. Agencer les corps quand ils sont rejetés hors du jeu. Trouver l'harmonie dans cette expulsion. Parfois, un tournage ne suffit pas. Et les mauvais films, souvent, vous n'avez pas su trouver ce tempo avec votre partenaire. Mais elle, toi, ben c'est un peu miraculeux, je ne sais pas ce que c'est, ce tempo qu'on a trouvé l'un avec l'autre. Parce que moi, je mettais du temps à me défaire de toi quand ils avaient dit couper. Et elle restait aussi, tu restais, contre moi. Si bien qu'on ne se décollait pas, jamais, quand on jouait les scènes que je préférais, les scènes où je t'aimais. Alors je réalise qu'on s'est épousé sans se le dire. Et je n'ai jamais autant haï la réalité qu'à ces moments où on se déprenait et que couper nous coupait l'un de l'autre.
Leni Gruiten.
Je me pose des questions. Que ce soit elle victime, toujours la victime allemande des Allemands, victime autrichienne, disons germanique, teutonne, schle, dirait Piccoli, et Magda. Magda, elle ne joue pas avec sa fille dans ce film-là. Portrait de groupe avec dame. C'est bizarre, étrange. Il semble... Je ne dis pas « elle est coupable, l'actrice ». Je dis « est-elle une victime ?» Et doit-elle toujours jouer les victimes ? Elle ne joue pas sa mère, ce qu'a été sa mère. Elle ne joue pas l'Allemande ordinaire ou la Bavaroise de l'époque qui idolâtre un petit bonhomme hystérique. Elle ne joue pas l'Allemande qui s'évanouit quand passe le petit bonhomme hystérique. Elle ne joue pas l'Allemande qui acquiesce quand le petit bonhomme hystérique éructe. Elle ne joue même pas le petit bonhomme hystérique. Elle pourrait avoir ce culot-là. Elle ne joue pas toutes ces femmes qui jouissent et hurlent de plaisir quand les paroles du petit bonhomme hystérique rentrent dans leur chatte pour y rester et pourrir jusqu'à enfanter les bons petits ariens qu'elle est. Je veux dire, pardon, c'est quoi Romy Schneider? C'est l'arienne, c'est tout. C'est l'arienne. Alors c'est tout de même... Personne ne le dit. C'est tout de même étrange que toute l'Europe condamne les Ariens en 1945, mais que la plus grande star de l'Europe soit une Arienne. Parce que si je vais plus loin, et pas d'inquiétude, j'y vais. Pourquoi tuer une civilisation? On se comprend. Si c'est pour que son emblème... Physiquement, je parle, et elle ne peut rien contre ça. Si c'est pour que son emblème triomphe. Je veux dire, est-ce qu'ils ont aussi dénazifié leur imaginaire, les cinéastes et les spectateurs? Est-ce que c'est une revanche symbolique de voir irradier à l'écran la quintessence même de l'arianité sur tous les écrans, partout? Est-ce que c'est quelque chose de ça, ce que je dis? Une revanche des représentations. Parce qu'on sait bien, à un moment, les armes, les tanks et les camps, ça fatigue tout le monde. Et ce n'est plus là qu'on gagne. Si, bien sûr. Mais pas uniquement. C'est avec le cinéma qu'on gagne. C'est avec les films, avec les grands visages des beautés qui aiment et vivent et meurent. Qu'on gagne. C'est avec les acteurs qui sont des soldats. Voilà ce que je dis. Et je dis que, peut-être, tant pis si ça ne plaît pas, je dis que, peut-être, Romy Schneider, elle est agent double. Voilà. Elle joue les victimes des nazis, d'accord. Oui, souvent, mais elle fait triompher à l'écran sa race. Oui, j'ai dit le mot. C'est comme ça. On a le droit de dire des choses encore ou pas? C'est le triomphe de la race aryenne dans les cinémas de l'Europe. Alors ça ne fait rien finalement que la guerre soit perdue. La revanche est là. Avec ce visage ovale, et cette peau bronzée, ces cheveux blondis, cette démarche. Oui, c'est vrai, Alain Delon disait de « nageuse de l'Allemagne de l'Est ». Je caricature, moi aussi. Et cet arrondi des sourcils, et ses yeux clairs, et ce nez grec, et ce corps somptueux, sculpté. Voilà. Il faut quelqu'un pour le dire. Qu'est-ce qu'on cherche à voir du monde quand on l'idolâtre? Qu'est-ce qu'on aime quand on l'aime? Qu'est-ce qu'on n'ose pas se dire de nos préférences quand on reste à la regarder bouche bée? Voilà. Moi, je ne sais pas. Mais, en plus, je dis tout ça alors que je suis la première. Vous voyez, moi aussi, je peux revendiquer des choses. La première qui l'a fait vieillir à l'écran. Bien sûr, dans l'artifice, avec le maquillage, et elle se fout d'être belle avec moi. Romy Schneider, elle veut raconter une histoire allemande. Avec moi. Et elle veut le faire gentiment. Pas gentiment. Doucement. Mais je pense en parlant, je pense qu'elle essaie aussi de dégrader l'Aryenne. La faire pourrir, vieillir, la montrer vulnérable, la démolir, l'approcher de la mort, la précipiter dans la mort. Alors, Romy Schneider, c'est pas ça ou ça. C'est tout à la fois et tous ses contraires.
Ça va même plus loin, Léni.
Anna Brigatti.
Ce n'est pas que l'Aryenne, c'est la femme. La femme, ça ne dit rien, je sais. Les femmes, d'accord. Les femmes, comme on veut les voir, les avoir. Bon, ce n'est pas un scoop. Belles et jeunes. Voilà, c'est simple, peut-être, mais parfois, quand les choses sont simples, elles disent davantage. Et Romy Schneider, elle dit parfois, elle se trouve moche, elle ne s'aime pas. Et le film Fantôme d'amour, je crois il parle de ça, justement. Parfois elle ne réussit même pas à venir sur le plateau. Il faut faire appeler quelqu'un pour qu'elle vienne et qu'il l'aide à, comment, apparaître. Elle a 43 ans. Elle dit elle se trouve moche, trop. Et ça lui ôte tout courage à venir pour qu'on la regarde. C'est pas un caprice, il ne faut pas dire ça. Pas un caprice. Quand même parce que c'est l'enfer. Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve. Tout dépend de ça. Comment vous êtes, comment vous passez dans l'image, à l'image. C'est sa chance, oui, c'est certain, mais c'est un esclavage aussi. Effroyable. De se voir, de se regarder. Au théâtre, il ne se voit pas les acteurs. Au cinéma, c'est autre chose. Vous vous rendez compte? Et pour une femme, c'est impitoyable, au dehors. Elle a vieilli, elle s'est bouffie, elle doit boire les boissons ou prendre les médicaments, les somnifères, les antidépresseurs. Elle prend la drogue. Je n'aime pas sa coiffure. Qui l'a costumée? Elle a pris un coup du temps. Elle a grossi, mon Dieu. Elle change. Son visage, il se creuse. Elle a perdu une chose. Vous vous rendez compte de l'horreur? De voir son existence à ça, ça doit rendre fou, ça rend fou. Bon, mais ça, c'est une chose. Et puis, il y a quand même que je suis un fantôme dans le film. Alors voilà. Être une femme, à 40 ans, c'est être un fantôme. Je ne sais pas, on dirait. C'est ce qu'on lui propose d'être, un fantôme. Et je suis frappée aussi parce que je m'aperçois quand, dans les derniers films, elle meurt tout le temps. C'est la seule chose qu'elle peut incarner. Une femme qui a la mort, qui l'attend. Est-ce que les femmes meurent à 40 ans?
Moi, je suis Marie. dans une histoire simple, en 1978. Et c'est le film pour les 40 ans de Romy Schneider. Un cadeau. Une chose comme ça. Que Sautet offre. Je suis vraiment un beau rôle parce que c'est peut-être à voir comment nous avons toutes été tracées, je peux dire, comme des lignes brisées. Brisées par des hommes. Et c'est vrai, je ne peux pas le nier, c'est vrai. On reçoit toutes des coups par les hommes. Et on ne peut pas dire qui le veut, qui y prend du plaisir. Si c'est les hommes ou bien des femmes autour, je ne sais pas. Toute une société qui veut voir Romy Schneider se faire malmener par des hommes.
Quand je joue avec toi, c'est vrai, je te cogne.
Claude Brasseur.
Je te file des gifles, des claques. Brasseur, action, vas-y. Je te pousse, je te secoue, je te malmène. Je te repousse, je te bats. Je te bats. Je te lamine.
Moi aussi. Yves, à toi.
Yves Montand.
Action. Quand je joue avec elle, je la bats, je la repousse, je la secoue, je la fais valdinguer. Elle s'écrase contre un mur. J'ai serré ses épaules. Des hématomes.
Et c'est constant.
Maurice Ronet.
Quand nous sommes des hommes et quand nous jouons avec elle, on ne cesse de le faire. On la viole, on l'immole, on la brutalise, on l'exécute, elle se défenestre, boit, on l'arrête, on la renverse, l'écrase, on la fouette, la trompe, la harcèle, on la mate, on la punit, on l'humilie, on la quitte, on la confond, on l'abandonne, on la salit, on l'avorte, on la fait pleurer, hurler, taire. C'est ça ce qu'elle vit, film après film, femme malmenée menant sa vie.
C'est vers les 40 ans, moi, que je tente de la mener, ma vie.
Marie.
Juste avant l'âge où on disparaît pour de bon, pour revenir 20 ans plus tard comme des grands-mères, ou des fantômes, comme disait Anna. Il faut le savoir, on le sait. Cette industrie, nous tournons des heures durant des films sur l'émancipation de la femme et derrière la caméra règne un comportement machiste comme il y a 20 ans. Ce n'est pas une nouvelle. Enfin, mais l'émancipation... Bon, je comprends ce que je veux dire. On ne nous écrit pas au-delà de cet âge. On s'arrête de vivre dans cette, disons, fourchette. On baise, on est dans la jeunesse et puis on ne doit plus baiser. On n'est plus rien puisqu'on est supposé ne plus baiser. Et nous revoilà comme des grands-mères. Je l'ai dit. D'accord, moi je veux bien, mais avant la grand-mère, il y a la femme. Et elle vit la femme. Elle s'arrête pas de vivre subitement. C'est tellement vrai, ce que je dis, que Romy Schneider meurt à 43 ans. Alors c'est vous dire si rien n'est écrit pour une femme de la quarantaine. Mais surtout, l'autre chose que je dois dire, c'est vrai, je l'ai remarqué, c'est bref, pas une femme ne dirige Romy Schneider. Pas une seule femme. Deux pièces de théâtre mises en scène et écrites par des hommes. 63 films, tous réalisés par des hommes. Pas une seule femme.
Elle joue trop. Trop vrai.
Jacques Dutronc.
Elle ne joue pas, elle fait peur, elle fait mal. Elle ne sait pas faire semblant. C'est un problème pour une actrice. Elle ne sait pas faire comme si. Elle ne peut pas faire comme si, et d'ailleurs, comment fait-on sans faire? C'est un paradoxe auquel je ne crois pas. On fait. On ne fait que faire. Impossible de faire en s'acharnant à défaire. Et elle, Romy Schneider, elle est d'une précision étonnante et d'une dévotion complète. Elle ne sait pas jauger, doser, ajuster le jeu. Il n'y a pas de jeu pour elle. Et s'il faut me frapper, elle me frappe. S'il faut me faire mal, elle me fait mal. Et elle le fait. S'il faut me griffer, m'embrasser ou me pousser, elle le fait. Et il est impossible avec elle de régler les choses, les prises, les plans. Je veux dire, bien sûr, on règle, on répète, mais quand c'est pour de bon, elle dirait pour de vrai, quand c'est pour de bon, les choses s'emplissent de sa vie et tout se décale. Se déporte. se creuse, tout devient dangereux, tout devient neuf, imprévisible. Ça devient la vie quand c'est pour de bon. Elle se blesse. Elle se met en danger de mort. Elle risque sa vie sur chaque plan. Et souvent, le tournage s'arrête parce qu'elle a frôlé la fin, parce qu'elle a failli finir. Finir comme ça, dans la lumière blanche d'un projecteur, au milieu des fils et des marques, au milieu des techniciens, du perchis, au milieu du décor, au milieu du maquillage, dans le fragment, dans un cadre, un plan, une géométrie, avec un partenaire, un inconnu ou un ami, avec les mots des autres, avec l'histoire des autres. Mais comment croire que ce n'est pas la sienne à chaque fois? Avec la pensée des autres et l'envie des autres, mourir ici, comme ça, au milieu des autres. Mourir ici, comme ça. Pas sur scène, mais plutôt en jeu. Mais non. En vie, oui, bien sûr. C'est ça. Mourir en vie.
Un jour, je n'étais pas née. Comme elle, Romy Schneider. Elle n'existait pas, et puis on m'a imaginée. Inventée. Je suis née comme elle. Romy Schneider. Seulement maintenant, moi, je ne mourrai pas. Dans un film, on meurt. Mais on recommence de vivre. Alors ça, c'est une chance que j'ai, mais elle, elle ne l'a pas, cette chance. Je suis Catherine Mortenhoe, comme je porte bien mon nom. Et Romy Schneider me joue dans la mort en direct. Et ce film, le film de Tavernier, il est un peu détruit par ce qu'elle vit. Ce qu'elle va vivre, c'est comme, je crois, son dernier film, La passante du sans-souci. Les films sacrifiés, les films qui ont quelque chose à dire, mais voilà. L'acteur est trop fort, l'actrice, en l'occurrence. Et alors, elle détruit le film à cause de ce qu'elle est, de ce qui lui arrive. C'est à son insu, évidemment, hein, je dis pas... Ce n'est pas volontaire, bien sûr. Elle décide de jouer le film alors se fait, mais aussi le film... se défait, parce qu'il rentre dans la vie de l'actrice. Je ne sais pas si je suis compréhensible, je veux dire... Le film, comme il me raconte, c'est... Je suis condamnée à mourir, maladie incurable, et on me propose de l'argent pour filmer ma mort en direct à la télévision. C'est la réalité dans la télévision. Mais ce n'est pas la pudeur ou l'impudeur, ce n'est pas Hervé Guibert, 10 ans plus tard... Je n'ai rien voulu ou décidé. Je ne me filme pas moi-même dans la lente déchéance, la longue agonie, le grand voyage. C'est tout à fait pas volontaire. Et dans le film, on me traque. Les journalistes, les photographes, les paparazzis. Alors forcément, je suis confisquée par Romy Schneider. Parce que les gens savent, vous savez, d'elle et son fils. David, il joue. Il apparaît dans le film, il y est crédité. Et ce qui tous, pas seulement moi, tous, vous, nous, ce qui nous écrase, ce qui nous désole, nous désespère, nous attriste infiniment, vous comme moi, c'est ceci, que la vie accomplisse le film, en transposant bien sûr, hein, toujours la vie transpose, que la vie se prenne à rattraper la fiction, vieille histoire, et personne ne mérite ça. Il y a des œuvres, quand on y travaille, qui anticipent votre vie. Et c'est comme si votre propre vie s'amusait à jouer dans le film, je veux dire, à accomplir, en vrai, ce que le film a imaginé. Et ça tue le film, parce que la vie est toujours plus forte, je veux dire. L'obscénité des caméras qui filment la mort, ce n'est pas qu'un sujet de fiction pour elle, Romy Schneider. Ça devient sa vie. Alors, est-ce qu'elle le sait quand on tourne? Ou est-ce qu'elle le sent et provoque elle-même tout ça en le jouant? Moi, je ne sais pas. C'est une inquiétude quand on écrit, m'a-t-on dit. Quand on joue, quand on représente la vie, parce qu'on ne sait jamais si on s'anticipe son existence. Si tout n'est qu'un malheureux hasard, un comble, ou si on s'efforce, consciemment ou pas, peut-être d'ailleurs, plutôt pas, si on s'efforce d'accomplir ce qu'on a joué, écrit, imaginer, incarner pour en quelque sorte entrer dans la légende. Ou bien alors, si l'œuvre postule la vie, et c'est un problème, je trouve. Est-ce que tu es plus grand parce que tu vis la tragédie de tes œuvres? Je veux dire,
Est-ce que ton œuvre est grandie par ce qui t'arrive et qui lui ressemble, colle? Est-ce que tu as plus le talent ou de génie parce que ton imagination finit de décider de ce qui t'arrive pour de vrai? Je ne parle pas de l'autofiction, c'est pas sérieux. Je parle de la vraie tragédie des gens qui croient en la fiction, pas pour eux-mêmes, mais qui y croient tellement que la fiction renverse leur vie. Je veux dire, vous inventez, et puis bon, bien sûr, vous n'inventez pas dans le vide, vous inventez à partir d'une chose qui est en vous. Vous inventez, et puis voilà, c'est peut-être très loin de vous quand même, mais d'une manière quand même, ce que vous inventez vient dans votre vie. Bon, les écrivains savent ça très bien. Swift, Verne, Wells, Orwell ou Atwood. S'ils peuvent prédire l'avenir, pourquoi une actrice ne pourrait pas avoir cette conscience, cette intuition pour elle-même que des choses terribles pourraient lui arriver? Que les choix qu'elle fait de ses rôles finissent par écrire sa vie, que ça devient sa vie. J'insiste parce que ça me touche beaucoup. Moi, je suis condamnée à être, disons, un film testament d'anticipation autobiographique. Alors forcément, je me pose les questions sur le surnaturel de tout ça. Et quelle est la volonté qui décide de tout ça? Si c'est elle? Si c'est moi? Si c'est vous, juste vous? Après tout, oui, vous. Vous qui décidez, pour elle, ce qu'elle a à être, à devenir, à vivre et souffrir, et comment mourir.
Les prémonitions.
Lydia.
C'est un grand mot, et pourtant, je vais me livrer à ce que personne n'a jusqu'ici voulu faire. Je vais me charger des basses besognes, tant pis pour moi. Je n'ai rien à gagner à le faire, mais comme je n'ai rien à perdre, les choses importent peu. Chacun parle à mots couverts. Chacun fait des allusions qui désarçonnent. Alors je crois qu'il faut nommer les événements d'une vie. Nous ne cessons de nommer l'œuvre. L'œuvre de l'actrice. Qu'est-ce que ça peut bien être, l'œuvre d'une actrice? Un cinéaste, un peintre, un écrivain, oui, mais une actrice. Alors il faut maintenant nommer la vie. Le torrent, le déluge. Concéder la factualité au regard de l'œuvre pour y traquer la contamination, l'interpénétration, la tragédie. Divorcer. Apprendre le suicide par pendaison de son ex-mari. Chuter. Être opéré pour l'ablation d'un rein. Un rein. Je veux pas dire, mais franchement, un rein. Le fleuve qui sépare la France de l'Allemagne. Devoir faire enlever de son ventre un fleuve, une frontière. Et cette frontière-là, ce fleuve-là. Enterrer son fils de 14 ans mort accidentellement. Mourir à 43 ans. Voilà, c'est fait, aussi bref que possible, aussi clair que possible, aussi brutal et mesquin que le réel. À présent, les transpositions. Jouer une femme dont la mort est traquée par les caméras quand le corps de son fils mort sera photographié par des paparazzi et placé en une d'un magazine allemand. Jouer une femme abîmée par les médicaments et l'alcool qui n'arrive plus à vivre quand c'est de ce mélange qu'elle mourra le 29 mai 1982. Jouer Sissi, et tant la jouer et si bien la jouer qu'on commence par penser qu'elle est vraiment cette impératrice pour finir par refuser d'autopsier son corps pour ne pas profaner le corps de l'impératrice. C'est exactement ce que dira l'abject, l'épouvantable, l'atroce, l'indigne, l'obscène homme de loi qui confisque jusqu'à sa mort. Et en ce qui me concerne, me jouer. Moi qui ai perdu ma fille dans un accident et qui ne se remet pas de son deuil. J'arrête ici et qu'on veuille bien me pardonner de cette brève incision qui accomplit le plus ignoble des raptes. Nommer sa vie à sa place.
Et maintenant, soudain, Romy Schneider. Et point final. Et basta. Ça commence. Je fais du cinéma, comme on dit en français. Je vis devant la caméra. Sans rôle, je ne peux pas vivre. J'ai besoin du succès. Si ça se trouve, je n'aurai plus jamais de rôle au cinéma. C'est un sale métier d'être actrice de cinéma. Ma profession, c'est ça. Entre dans la piscine, sort de la piscine. Si ça pouvait déjà être fini. Je voudrais être une mémé, un jour à la campagne, avec mes fruits, mes arbres et ma fille. Et vivre. Aimer complètement. Toute une vie, le spleen germanique. J'existe jamais, tout à fait. J'étais bien prête à me livrer corps et âme, comme on dit chez nous, à se dire, on se tue. C'est le suicide. Dans ce métier, si on l'aime comme moi, je l'aime, c'est parfois un peu difficile de lier le métier et la vie privée ensemble. On ne peut pas faire tout le temps seulement du cinéma. Pas tout le monde peut le faire. Si ça s'arrête, on n'a plus rien. Si on n'a pas quelqu'un ou une vie ou un coin où on peut aller ou un enfant... J'ai le sentiment que quelque chose de mon véritable moi transparaît de plus en plus au fil des films. Je ne suis jamais contente en ce qui me concerne. Je suis désespérée. Je me sens toute torturée. C'est comme ça que ça se passe en moi. Mortellement fatiguée. Je ne suis parfois heureuse que le soir. Je suis complètement angoissée. Trop de larmes dans les yeux. Mais je ne suis pas née pour pleurer à longueur de vie. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je suis malheureusement trop normale. Je suis tellement fatiguée. Je ne sais pas comment je suis. Je me sens bien et heureuse comme jamais auparavant. Beaucoup de peur, de trac. Un trac. Mal. Je suis affreuse, je suis terriblement égoïste. Je commence aujourd'hui à me comprendre, à ne plus me fuir. J'ai besoin de me surpasser. Je suis très ambitieuse, très inquiète tout le temps. Je peux être odieuse. Je suis trop épuisée, je suis trop démolie pour pouvoir me défendre, vraiment. Est-ce qu'on peut choisir sa vie? Je crois pas. Ça me gêne pas, mais ça m'emmerde. Je ne pourrais pas encore être sans faire ce métier. C'est comme un poison qu'on avale, comme une drogue douce. On a l'impression d'appartenir à tout le monde. J'espère qu'on voit plus le personnage que moi. Je rentrerai sous terre si les gens me trouvaient mauvaise. Quand on vient me demander si je fais des pommes de terre sautées, je ne réponds pas. Je suis très bourgeoise, vous savez, je suis très démodée et très bourgeoise. Si, c'était bien gentil. Je ne suis pas une alcoolique, je ne suis pas une reine de beauté, je suis photogénique, c'est tout. Je me sens ici comme une double étrangère. Je suis un peu émue, maintenant. Excusez-moi. J'ai un mal du pays pour Paris, pour la France. Je suis française, à part entière. J'en suis heureuse. Une invention idiote, cette frontière. Qu'est-ce que nous sommes, parfois, les acteurs? On vous harcèle sans cesse pour vous sanctifier. On me porte au nu. On me rabaisse plus bas que terre. Peut-être suis-je en fait une bulle de savon qui éclatera un jour dans un grand bruit. Ça peut s'arrêter, surtout pour une femme. Un jour on est plus jeune, plus jolie. Je n'ai peur de rien au monde, sauf de moi. Et quel est mon monde?
Je ne peux pas agir librement, je n'ai pas le droit d'être fatiguée. Vous savez ce que certains soi-disant photographes sont capables de faire. Je pense que le public a le droit de le savoir. Qu'on se déguise en infirmier pour photographier un enfant mort, qu'il y a une certaine presse qui achète et qui publie à la une, comme on dit. Où est la morale? Où est le tact? J'aimerais... souffler un peu. Qu'on me laisse enfin tranquille. Je n'ai pas envie de parler, donner forme à ma vie. J'espère, j'ai réussi un peu. Je reconnais avoir beaucoup souffert. Je ne vois pas pourquoi j'en aurais honte. Je ne peux pas changer ma peau. On m'a même pris ma confiance en moi-même. Je pense que le temps passe trop vite pour ma vie. Il y a toujours une fin, de toute façon. Il faut la décider soi-même. Je voudrais risquer quelque chose. Ma vraie vie. Je m'appelle Romy Schneider. En français, Romy Schneider. J'aimerais bien devenir une grande actrice.
Als du fortgingst von hier,
soudain, Romy Schneider, de Guillaume Poy, avec Anouk Grimbert, Stéphanie Pasquet, Éric Herson-Macarel, Mélissa Barbeau, Grégoire Mont-Saint-Jean, Andrea Schiffer, Suliane Brahim, Marie Desgranges, Clément Bresson, Jean-Claude Leguet, Xavier Brossard, Alexandre Steiger, Valérie Dashwood, Audrey Bonnet et Peggy Martineau. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire.
Tu bist so weit, c'est ma vie.